Religion du monde. Geneviève Delrue.
Nous avons tous peur de quelque chose, de la maladie, de l'accident, de l'incendie, du chômage, de la misère, du froid, du réchauffement climatique. Nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver de fâcheux demain. Le sage répond à ça, n'ayez pas peur de demain, hier était supposé être tout aussi dangereux.
Bienvenue dans cette rediffusion. La semaine dernière, nous recevions Patrice Van Hersel pour son livre sur la vie intérieure. Nous poursuivons dans cette rediffusion sur la quête du sens, de la sagesse et somme toute du bonheur avec deux invités. Dans cette première partie, avec Patrick Lévy, que nous venons d'entendre, qui a signé aux éditions du Relier « Qui est sage ?», compte en antidote au fanatisme. Et dans la deuxième partie, après le flash, c'est le philosophe Alain Durel qui nous parlera du bonheur. À noter que ces entretiens ont été réalisés au début de l'année 2017 pour le deuxième anniversaire de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Patrick Lévy, bonjour.
Bonjour.
Et merci de vous être prêté à cette première lecture, une première lecture tirée de votre livre « Qui est sage ?» Compte en antidote au fanatisme, un livre publié aux éditions du Relier. C'est un livre qui rassemble une centaine de contes tirés de l'hindouisme, du judaïsme, de l'islam, du christianisme aussi, mais moins, qui nous amène à devenir, semble-t-il, plus sage. Alors déjà, une première question sur le sous-titre, l'antidote au fanatisme. En quoi des contes peuvent-ils être des antidotes aujourd'hui au fanatisme ?
Le fanatique applique à sa vie un ensemble de réponses, de recettes, de prescriptions écrites dans un livre. La plupart du temps, un livre ancien. Ça peut aussi être Karl Marx, pas si ancien que ça. Il obéit aveuglément, sans s'interroger sur la pertinence ou même l'humanité de la réponse. Le sage ouvre le problème pour l'interroger. La sagesse est paradoxale par essence. Aux deux sens du terme, paradoxe, c'est-à-dire à côté de la doxa, de la voie admise, et en même temps contradictoire en soi. Donc, pour s'opposer au fanatisme, il faut le déséquilibrer. Un exemple, c'est un vers d'un poète indien, Tagore, « Où les routes sont tracées, je perds mon chemin ». Parce que mon chemin, c'est pas le chemin des autres. Voilà. Donc, ce n'est pas mon chemin, si c'est tracé. Ou une phrase de Rabbi Nachman de Breslav, « Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu ne pourrais pas t'égarer ». Dans la vie, s'égarer, c'est important. Ce qui est important, ce n'est pas d'obéir, c'est de découvrir. La sagesse est dans la découverte, pas dans l'obéissance. C'est la religion, mais la religion est très bien aussi. C'est la religion dogmatique, emprisonnante, qui pose des problèmes.
Alors, sur le fanatisme, effectivement, nous y reviendrons, mais tout d'abord un commentaire de votre première lecture, tiré de votre livre, ce commentaire sur les peurs aujourd'hui. Alors, les deux années précédentes ont été tout à fait anxiogènes. Ouais. Nous sommes dans un climat d'anxiété. Il y a 2 ans, c'était l'attentat contre Charlie Hebdo. Ouais. Et en même temps, vous dites, n'ayez pas peur. Comme le pape Jean-Paul II, d'ailleurs, tiens.
N'ayez pas peur. Citons un vieux proverbe chinois. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux du malheur de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. Ouais, il y a du danger. Il n'est pas partout. Il n'est pas constant. N'ayons quand même pas la paranoïa totale. Ce qui arrive est fâcheux, mais ça n'arrive pas constamment. Et continuons à vivre, c'est la seule façon de gagner cette victoire.
Ça s'appelle les aléas de l'histoire ?
Peut-être.
Alors ça, c'est tiré de l'angoissé. Hein. C'est une de vos productions personnelles, parce que dans ces contes, la plupart, effectivement, sont emprunts aux traditions hindoues, au judaïsme, à l'islam aussi, avec très souvent des soufis. Hein. La plupart du temps, ce sont des soufis.
Oui, il y a aussi des histoires un peu chrétiennes. Enfin, mon expérience avec Mère Teresa ou l'abbé Pierre, il y a...
Quelques passages évangiles aussi.
Oui, voilà, qui sont très jolis. Jésus est un grand sage quand, devant le problème de la femme adultère, il ne cite pas la Bible, il ne va pas chercher un dogme, il dit « Celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre ». C'est écrit nulle part, il innove là.
Ça, c'était vraiment révolutionnaire.
Oui.
Comme le discours sur la montagne, d'ailleurs aussi.
Oui, et vous voyez, au journal télévisé, on pourrait voir de ces fanatiques aujourd'hui, comme ils étaient alors, pousser quelqu'un de pas assez voilé, etc. C'est tout à fait dans l'air du temps.
Alors, ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous vous intéressez aux religions, plus particulièrement à l'ésotérisme juif, également à l'Inde, où vous séjourniez 6 mois par an.
Oui.
Vous connaissez très bien les traditions hindoues, le bouddhisme.
Je suis allé en Inde plus de 20 fois, j'ai cessé de compter, parce que l'Inde est la mère des traditions religieuses. Il y a là la naissance du bouddhisme, du jainisme, il y a les hindouismes, c'est une religion extrêmement variée. Et ce sont des religions non dogmatiques, c'est-à-dire qui n'ont jamais cessé d'évoluer, de changer. Il y a des nouveaux maîtres, et quand le maître meurt, son disciple prend le relais et interprète à sa façon, à lui, etc. C'est très très vivant. On pourrait dire que l'Inde, c'est la Grèce antique si le christianisme ne s'était pas mis là. Ça continue à être un terreau de philosophes spirituels.
Le christianisme et le judaïsme aussi ?
Oui, je suis quelqu'un qui a pratiqué 5 religions alternativement et concomitamment pendant 10 ans. Et ça a donné mon premier livre, Dieu croit-il en Dieu ? C'était la première fois en France qu'on publiait dans un seul livre 5 religions. Et j'envisage les religions, non pas du point de vue de ce qu'il y a à croire, mais de ce qu'elles proposent d'expérimenter et de connaître. C'est en quelque sorte le que choisir de la religion.
Est-ce que vous pouvez vous définir comme un juif athée mystique ?
Pas besoin de mettre juif là-dedans, même si mon nom est un peu juif. Je suis...
C'est pour ça que je vous pose la question, hein ?
Bien sûr.
Patrick Lévy.
Je suis un homme et je pense que tout ce qui appartient à l'humanité m'appartient. Donc, je suis de tous. Et je pense au prophète Ali, le prophète des chiites, qui disait qu'il fallait étudier les sciences et les religions. C'est le pluriel qui est important là. Une religion ne suffit pas. Pour donner de la profondeur à sa foi, il faut en étudier une autre. Ce qu'on apprend des autres stimule et enrichit notre religion, celle qu'on a envie de pratiquer. Par ailleurs, j'affirme qu'on n'est pas obligé de pratiquer la religion de sa naissance. On peut choisir la voie spirituelle qu'on veut pratiquer.
En changer, ce qui effectivement, par exemple, en islam, est dans beaucoup de pays impossible.
Oui, c'est bien dommage. On a le droit de se convertir, mais pas de se déconvertir. C'est paradoxal.
Finalement, Patrick Lévy, vous semblez beaucoup plus à l'aise avec le polythéisme qu'avec les monothéismes.
En effet.
Vous assumez ?
J'assume. Le monothéisme, c'est le monopole de quelque chose. Et en fait, c'est le vol d'une idée. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le mien. Et ça, c'est pas sympa pour tous les autres. Pourquoi ?
C'est le début du problème pour vous.
Oui, c'est le début d'un grand problème. Car s'il n'y a qu'un Dieu... C'est forcément le mien qui est le bon et le vôtre qui est pas le bon. Et si vous prospérez en croyant en un Dieu qui n'est pas le mien et comme le mien c'est le bon, votre existence pose un problème à ma foi. Et pour éviter de m'y confronter, je suis obligé de vous faire du mal. Le monothéisme porte en son sein la violence. Le polythéisme est beaucoup plus cool. C'est-à-dire, vous croyez en ce que vous voulez, je crois en ce que je veux, et je peux même croire en plusieurs choses. J'ai moi-même pratiqué plusieurs religions. Personne au ciel ne s'en est offusqué. Je n'ai jamais entendu Dieu me dire « Non, non, tu te trompes ».
Oui, en même temps, il y a du fanatisme dans l'hindouisme.
Oui, il y a du fanatisme partout, il y a de la bêtise partout. Donc, si on traque la bêtise, personne n'est innocent de rien. Mais on ne peut pas vous condamner en Inde si vous croyez en Ram plutôt qu'en Krishna, plutôt qu'en Shiva. Tout le monde s'en fiche. Les Indiens ont une expression qui dit « Quel est ton Dieu de prédilection ?» Dans le monothéisme, Dieu a choisi les Hébreux. Ou Dieu choisit les disciples de Jésus. Dans le polythéisme, vous choisissez Dieu. Et ça change tout.
Alors, vous avez traqué manifestement Patrick Lévy dans les contes, qu'il soit soufi, qu'il soit tiré du judaïsme, du christianisme, de l'Inde, du bouddhisme, tout ce qui peut amener à une forme de libération. Et aussi tout ce qui finalement nivelle j'allais dire, les différences entre les religions. Alors là, puisque vous parliez il y a quelques instants de l'Inde et de Ram, eh bien, il y a ce conte que vous appelez Mosquée Babri, qui se trouve donc à Ayodhya, en Inde. Un musulman voit dans sa mosquée Ram, un des dieux, donc hindou.
Voilà. Alors évidemment, tout le monde a voulu récupérer cette histoire à sa manière. Les musulmans y ont vu la preuve que Allah a décidé que l'hindouisme était une aberration, puisque c'est dans une mosquée que Ram est apparu. Les hindous ont voulu y voir que c'était bien la preuve que Ram existait, puisqu'il est apparu à un musulman. Et chacun a voulu tirer la couverture à soi. J'en fais un compte, mais c'est quand même une histoire qui était dans le journal pendant des années. Ça a fait des centaines de morts, cette histoire-là.
La mosquée d'Ayodhya, oui, c'était oui,
dans les années 90.
90, c'est ça, c'était terrible.
Ça a été alimenté par les partis politiques qui ont chacun allumé le feu un peu partout. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les musulmans et les hindous fanatiques? C'est que c'est la haine qui anime leur cœur. Et la solution, c'est que quand ils voudront bien voir l'amour qui les lie à Dieu, peut-être qu'ils trouveront la solution à ce problème-là. Le problème, c'est quoi? On pense que Ram est né à cet endroit précis, là, sur ce mètre carré de terrain. Quelle importance!
Patrick Lévy, alors, lisez-nous quelques lignes de ce conte, de votre conte sur la mosquée Babri.
Je vais vous lire la fin. Cherchant surtout des raisons de se combattre, ils étaient bien semblables. Ils prétendaient que leur religion était différente, mais elle les portait à agir de la même façon. Elle leur inspirait la haine. Laquelle des deux communautés surpassera l'autre en magnanimité en abandonnant sa revendication? L'amour seul et non leur religion mettra fin à leur querelle, dit le sage. Voilà, c'est comme ça que je finis cette histoire qui est encore en processus.
Sur le fanatisme, dans la partie consacré aux religions, Patrick Lévy, il y a l'histoire de la ville sainte racontée par Gibran, donc le poète libanais.
Oui, Gibran entend parler d'une ville sainte. Il veut y aller. Il marche 40 jours avec des provisions dans le désert. Il y arrive. Et quand il arrive dans cette ville sainte, il voit que tous les hommes ont leur main amputée, leur main droite amputée, et leur œil droit crevé. Mais il se demande, mais que s'est-il passé ici? Qui vous a fait une pareille horreur? Et les habitants le conduisent jusqu'à un édifice où il est écrit sur le fronton de cet édifice « Si ton œil t'a fait pécher, si ta main t'a fait pécher, coupe-les, tranche-les !» Et il se rend compte qu'il a affaire à des fanatiques. Et il se dépêche de fuir.
Et c'est même plus que cela, Patrick Lévy. Ouais. Gibran sortit vite du temple, hein, je lis là les trois dernières lignes de ce conte. Gibran sortit vite du temple, puis de la ville sainte, enfin sainte entre guillemets, car comme il n'était plus très jeune, il risquait de devoir comprendre l'écriture.
Parce que
ça veut dire
ce...
quoi ça
cette Parce fin? Que dans cette ville, il n'y avait que les enfants qui ne savaient pas lire, qui avaient encore une main et un œil. Tous les autres, c'était eux-mêmes trancher une main et s'était crevé un œil.
Donc c'est toute la question de la lecture littéraliste.
Exactement, c'est ça. Le fanatique, c'est lire de façon littérale, sans comprendre qu'il y a des symboles dans le langage et qu'il faut aller au-delà des mots.
Il y a un conte que vous intitulez « Djihad ». C'est celui d'un soufi qui avait participé à 90 guerres. Et puis un jour, bon, au terme d'un long chemin que vous allez nous raconter, il décide de pratiquer une guerre plus intérieure. Pour se perfectionner et se connaître d'abord.
Il entend les tambours une fois, il était dans sa cellule de retraite pour pratiquer la religion. Et puis il entend les tambours, il se dit « Oh, c'est le moment d'y aller, mon ego me parlait », dit-il.
« Je vais être un héros ».
« Je vais être un héros, tout à fait, je vais aller me faire éclater là où il faut ». Et son âme lui réplique « Mais, espèce d'ego fanatique, écoute-toi, tu vois, c'est ton orgueil qui veut te libérer des affres de la solitude et de l'ascétisme. Au fond, c'est par facilité que tu veux aller te faire tuer au front. » Voilà. C'est beaucoup plus difficile d'obéir à la religion une vie durant que pendant quelques mois avant d'aller se faire tuer, c'est tout. C'est la solution de facilité, ça. Ça vaut rien, ça.
De se faire exploser,
vous
voulez dire.
Oui, ou d'aller au front. Le djihad, c'est pas ça. Le djihad, c'est vivre une vie sainte, longue, dure. C'est facile d'obéir pendant 3 mois à des prescriptions absolument difficiles. Mais toute une vie ça c'est héroïque. 90 ans de vie sainte, ça c'est héroïque.
Nous parlions tout à l'heure, Patrick Lévy, des monothéismes. Bon, pour vous, les monothéismes sont plus dangereux, portent en eux le germe des germes de violence. Il n'empêche quand même que vous nous citez Abraham dans vos contes de sagesse. Abraham qui finalement est en quelque sorte le père de l'émancipation, d'une certaine façon, puisqu'il écoute quand il entend la voix divine lui dire « va vers toi-même », finalement il accepte et il part, il quitte sa famille. Il va réaliser son destin.
Oui, il s'en va, il part. D'accord ? Mais encore faut-il accepter que d'autres qui entendent eux-mêmes une voix aient le droit de s'émanciper de la voix de leurs parents ou de leurs aïeux ou de leur communauté. D'accord ? Abraham s'est émancipé du culte idolâtre de son père. N'importe qui peut aussi avoir le droit de s'émanciper du culte de sa communauté. Je vous dirai une chose, c'est que Dieu, le Dieu d'Abraham, change. Le Dieu de la Bible, c'est pas le même Dieu de la première à la dernière page. Je vais vous raconter quatre histoires. Dieu parle à Noé. Il lui dit, je vais tout noyer, construis une arche, toi et ta famille, vous entrez dedans, et prenez aussi un couple de chaque animal, et je vais noyer toute l'humanité. Les rabbins du Talmud disent, et dans les yeux de Noé, Dieu ne vit pas même une larme. Noé ne dit rien. Dans le chapitre qui est consacré à cette histoire, il n'y a aucune réaction de Noé. Noé n'est pas grand-chose pour les Juifs. Abraham rencontre trois anges qui lui disent qu'ils vont brûler Sodome. Et là, il y a une petite évolution. Abraham marchande. Il sait que son neveu, Lot, est à Sodome et il dit aux anges, c'est-à-dire à Dieu, « Mais s'il y a 100 justes à Sodome, est-ce que tu vas brûler la ville de Sodome ?» Ah, Dieu recule, 100, non. 90, 90, non. 80, 80, non. 40, non. 30, non. Il s'arrête à 10, grave erreur. Et il fallait dire 1. S'il y a un juste à Sodome, il fallait sauver Sodome. Il s'arrête à 10. Troisième épisode, Moïse. Moïse monte 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Il descend. Pendant 40 jours, les autres se sont un peu égarés. Ils ont construit de veaux d'or. Et Dieu et Moïse sont très énervés. Mais Moïse parle à Dieu et dit « Si tu touches à un seul de leurs cheveux, efface-moi de ton livre. » C'est une revendication extrême. « Je ne veux rien avoir à faire avec toi si tu t'en mêles. » Voilà. Et Dieu ne fait rien. Le quatrième épisode, c'est Jésus dans cette histoire. Là, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui se met dans la balance du jugement et de la sentence. Et ce sont les hommes qui condamnent Dieu, et ce n'est plus Dieu qui condamne les hommes. Voilà l'évolution de Dieu à travers le monothéisme, juif et chrétien en tout cas.
On termine avec vous, Patrick Lévy, sur le blasphème. Il y a donc 2 ans, une grande partie de la rédaction de Charlie Hebdo périssait dans l'attentat. Il y a une bonne dizaine d'années, vous avez écrit un éloge du blasphème. Pour vous, le blasphème est libérateur, c'est même une forme de rapport avec Dieu.
Oui, celui qui blasphème, en fait, il s'adresse à Dieu. Et personne n'a le droit de s'occuper de sa relation personnelle avec Dieu. Je blasphème, Dieu m'entend, et c'est à lui de s'occuper de moi et de ses propres affaires. Personne ne doit venir s'interposer entre le blasphémateur et Dieu. Je voudrais aussi citer une très belle phrase de Gertrude Stein qui disait « Il n'y a pas de réponse. Il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y aura jamais de réponse. Et ça, c'est la réponse. » Et mon maître, Rabbi Isaac Goldman, disait « Une question nous ouvre, une réponse nous enferme en elle. » Le blasphémateur essaye d'ouvrir, de percer la carapace de Dieu quelque part. C'est son affaire, c'est sa façon de dialoguer avec lui.
Je vous remercie, Patrick Lévy. Je rappelle le titre de votre livre « Qui est sage ?» Des contes en antidote au fanatisme, et c'est publié aux éditions Le Relier. Place à l'info, on se retrouve après le flash. Reste à l'écoute de RFI.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Après les contes de sagesse et d'éveil de Patrick Lévy dans la première partie de Religion du Monde, nous poursuivons cette fois avec la quête du bonheur en compagnie de notre second invité, le philosophe Alain Durel, et son livre au titre prometteur « Cultiver la joie ». Être heureux ici et maintenant aux éditions Erol. Alain Durel, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez quand même pas mal de points communs avec Patrick Lévy. Comme lui, vous êtes un globe-trotteur spirituel. Comme lui, vous avez beaucoup voyagé, l'Égypte, l'Inde, la Grèce. Et au terme de ce long voyage, vous avez trouvé votre port d'attache, l'orthodoxie. Vous avez séjourné dans plusieurs monastères du Mont Athos et vous avez écrit différents livres, justement, sur cette expérience, dont l'Archipel des Saints. Alors, aujourd'hui, avec votre nouveau livre, eh bien, c'est tout à fait différent. C'est un guide spirituel hein, sur le bonheur. Alors, pourquoi ce guide? Ça correspond à quel temps, hein, j'allais dire personnel, dans votre démarche? Est-ce qu'il faut aujourd'hui vraiment hein, un livre sur le bonheur? On en voit effectivement partout dans les rayons des librairies. C'est si important que ça de trouver les voies?
Oui, je crois que c'est pas du tout un hasard si il y a autant de livres qui paraissent sur ce sujet. Il y a un vrai besoin. Alors, évidemment, on pourrait tourner les choses d'une manière un peu négative en disant que si les gens s'intéressent tant au bonheur, c'est parce qu'ils sont malheureux. Et de fait, je crois que malheureusement, c'est assez vrai. Il y a un stress, une souffrance, une inquiétude. Les gens commencent à éprouver de plus en plus le besoin de se remettre en question. Mais je dirais que c'est une bonne chose, puisque en fond, peut-être que nous n'avons pas suffisamment, je dis nous, en Occident, nous avons trop longtemps axé notre désir, notre intérêt sur l'acquisition de biens matériels. Nous sommes rentrés dans une logique de compétition, d'avoir, et il est peut-être temps un petit peu de lever le pied et de passer à l'être.
Oui, toute la question de l'être et de l'avoir, et dans le même temps, on peut dire que ça peut être aussi une démarche un peu égocentrique. Hein, le bien-être, d'ailleurs, il y a des marchands de bonheur aujourd'hui. Hein,
tout à fait.
Marchand du bien-être.
Oui, c'est pour ça que j'aime pas trop l'expression de développement personnel. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on a des cases, il faut rentrer dans des cases, mais je n'aime pas trop cette expression parce qu'on peut tout à fait considérer le développement personnel comme un développement finalement égocentré, égocentrique. Et je pense qu'il n'y a pas de bonheur dans le fait d'être centré sur soi-même. Au contraire, je dirais, c'est précisément l'enseignement des grands maîtres, que ce soit les grands maîtres du passé, de l'Antiquité, aussi bien grecs, chinoise ou indienne, c'est de nous montrer que c'est justement dans le décentrement qu'on peut trouver un espace, dégager un espace dans lequel vivre en conscience et donc trouver le bonheur.
Alors, vous convoquez les philosophes de l'Antiquité, aussi les philosophes du XXe siècle, je pense à Étienne Soum, vous convoquez également hein, Saint Paul, les évangiles. Dans ce livre, on peut dire que la source, elle est plutôt philosophique, plutôt religieuse, plutôt spirituelle.
Alors, je pense que si on parle de philosophie, il faut parler de philosophie dans un sens très précis, qui est celui de l'Antiquité, je dirais, gréco-romaine, ce qu'on appelle la philosophie hellénistique, c'est-à-dire la philosophie comme l'entendait un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, Monsieur Pierre Hadot, qui a expliqué que au fond, la philosophie antique est d'abord un art de vivre. Donc, j'entends par philosophie l'art de vivre, l'art d'exister, et non pas des spéculation intellectuelle, comme elle est devenue malheureusement et comme elle est quand même globalement encore aujourd'hui, et donc à mon avis quelque chose d'assez stérile, sauf dans quelques domaines importants comme l'éthique, l'épistémologie, etc. Donc je dirais que oui, je réponds à votre question, oui, c'est de la philosophie, mais dans ce sens très précis, le sens de la philosophie hellénistique, c'est-à-dire le sens où des gens comme les stoïciens, les épicuriens, les cyniques, et puis dans d'autres traditions, je pense notamment au taoïsme, au bouddhisme, où vraiment là, on est dans une perspective de guérison, de thérapeutique et de sagesse. Et dans ce contexte, je n'hésite pas à convoquer aussi l'Évangile, d'abord parce que je suis chrétien, mais parce que je considère que l'Évangile est aussi un livre de philosophie dans ce sens, ce qu'on oublie toujours, parce qu'on renvoie toujours l'Évangile à la religion chrétienne, à une certaine transcendance, à tout ce qui va avec. Mais pour moi, l'Évangile, si on le lit attentivement, c'est un chemin de sagesse, et c'est donc un livre philosophique en ce sens très précis.
Alors, puisqu'on parle de philosophe, vous parlez quand même dans votre livre, Alain Durel, de l'erreur de Descartes, le fameux « je pense, donc je suis ».
Oui, parce que l'erreur de Descartes, évidemment, toute relative, c'est un peu prétentieux pour moi, mais je dirais que c'est pas tellement Descartes, c'est le cartésianisme et toute notre société occidentale à partir des temps modernes du XVIIe siècle, qui est aussi la grandeur de l'Occident, d'avoir mis le paquet, si vous me permettez l'expression, sur la technique, sur la rationalité et sur ces différentes modes d'efficacité, et donc qui conduisent malheureusement, il faut quand même le dire, à des catastrophes, une catastrophe écologique, et puis aussi une catastrophe, il faut pas oublier que la Shoah et Hiroshima, ce sont aussi, même si ça peut paraître un petit peu scandaleux pour certains, les produits lointains de cette idée que tout doit reposer dans une efficacité technique. Et donc, je pense que ce que j'appelle le mental, pour faire court, parce que je ne veux pas utiliser le terme d'esprit, qui est un terme un peu ambivalent et complexe, le mental a pris trop de place dans notre vie. Et le mental est devenu omniprésent. Et à cela vient s'ajouter, en plus, ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information, etc. Toutes nos écrans et autres tablettes, qui, en fond, ne font que renforcer ce processus de mentalisation. Nous ne vivons plus dans notre corps, nous ne vivons plus dans l'instant présent, nous vivons essentiellement dans nos représentations, nous vivons essentiellement dans nos pensées. Et ce que nous enseignent tous les sages, aussi bien de l'Antiquité gréco-romaine, comme je le disais, que de l'Évangile, c'est précisément qu'il faut savoir revenir à l'instant présent, c'est qu'il faut savoir revenir à notre corps, à nos sensations, à nos perceptions, et que le bonheur ne peut exister qu'ici et maintenant.
Alors, le ici et maintenant, Alain Durel, ça rappelle tout à fait l'enseignement du maître vietnamien Thich Nhat Hanh.
Oui, bien sûr, que j'ai connu.
Je suis allé
au village des Pruniers. Mais c'est un enseignement que vous trouvez chez Sénèque. C'est un enseignement que vous trouvez chez Marc Aurèle. Bien sûr, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est la même chose. C'est quelque chose que vous trouvez dans l'Évangile.
À quel moment, par exemple?
Vous trouvez ça à toutes les pages. Chaque jour suffit sa peine, ce proverbe, qui est en fait une parole de Jésus, nous renvoie à l'instant présent. L'idée, quand le Christ dit que il faut retrouver la disposition d'un enfant, nul n'entre dans le royaume des cieux s'il ne l'accueille comme un petit enfant. Donc qu'est-ce que ça veut dire retrouver l'esprit d'enfance? C'est justement un esprit démentalisé, c'est un esprit d'innocence, c'est un esprit capable d'accueillir le réel, d'émerveillement, mais de l'instant présent. Donc il y a cette notion, parce que évidemment c'est une banalité de le dire, mais il faut vivre cette expérience. Il faut bien prendre conscience que nous n'avons jamais vécu, nous ne vivons et nous ne vivrons jamais que dans l'instant présent. C'est quand même incroyable, vous voyez, on a beau le dire, mais ce que vous avez vécu au passé, quand vous l'avez vécu, c'était au présent, n'est-ce pas? Et quand vous vous remémorez un instant heureux du passé, vous le remémorez au présent. Et cet instant, quand vous l'avez vécu, c'était au présent. Et ce que vous vivrez dans le futur, vous le vivrez au présent. Donc, ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que nous ne vivons qu'au présent et pourtant nous sommes toujours en dehors du présent. Nous sommes à côté de la plaque. Donc, toute la problématique de cette philosophie, c'est de revenir à ce que nous sommes. Donc, c'est un petit peu extraordinaire parce que nous n'avons qu'à être ce que nous sommes, mais nous ne sommes pas ce que nous sommes. Et c'est bien ça le problème.
Et vous estimez que la technologie, par exemple moderne, Internet, accentue précisément le fait de ne pas être présent à l'instant présent?
Oui, tout à fait. La technologie nous renvoie sans arrêt à l'inquiétude du futur et au regret du passé. Parce que nous sommes toujours tiraillés dans nos agendas, dans nos emplois du temps, etc., sur ce que nous allons faire, sur ce que nous devons faire. Nous sommes, en quelque sorte, toujours décalés par rapport à l'instant. Et donc, nous ne vivons pas dans l'instant présent. Et ça se traduit par des comportements qu'on voit tous les jours dans la rue. Regardez, c'est très simple. Vous arrêtez un feu, je parle pour les piétons, vous êtes piéton à Paris, par exemple, ou dans n'importe quelle grande ville, et vous voyez l'excitation des gens qui ne peuvent pas attendre une minute ou deux que le feu soit vert. Alors, ils vont quand même traverser, ils vont quand même risquer leur propre vie et celle des autres, parce qu'ils ne peuvent pas attendre, parce que nous ne pouvons pas attendre.
Il n'y a pas que le piéton, il y a le vélo.
Et le vélo, le scooter, tout ce que vous voulez.
Il n'y
a aucun problème. Et donc, cette incapacité, cette inquiétude fondamentale qui nous ronge, et dans mon livre, je propose des petits exercices, parce que c'est un livre qui n'est pas un livre spéculatif, c'est un livre extrêmement pratique, et des choses toutes simples, vous voyez, vous vous arrêtez, vous respirez profondément, vous revenez à votre corps, vous revenez à vos sensations, et d'un seul coup, vous vous apercevez que c'est merveilleux, vous levez la tête, vous regardez le ciel, vous regardez les gens autour de vous, vous regardez les enfants, et vous reprenez possession non seulement de votre corps, mais vous revenez dans l'existence, vous revenez dans le réel.
Vous revenez au monde.
Et vous revenez au monde. Et alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que nous ne sommes pas dans le monde, nous vivons dans un monde, dans une abstraction collective, dans une espèce... Vous savez, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce film de science-fiction qui avait pas mal marqué les esprits il y a quelques années, Matrix. Bon, moi, c'est un film que j'aime bien parce que je trouve qu'il résume tout à fait la problématique dans laquelle nous sommes. On vit dans un monde d'abstraction. Nous ne vivons pas dans le réel.
Et cette conscience, Alain Durel, vous en avez pris conscience, si je puis dire. À quel moment? Est-ce que c'est le fait d'avoir séjourné dans des monastères?
Oui, ça a été long. Il a fallu un certain mûrissement parce que moi, je suis français. Je viens de cette culture cartésienne. En plus, je viens d'une éducation rationaliste, anticléricale, militante, et donc il m'a fallu du temps.
Vous êtes un transfuge.
Oui, si vous voulez, mais il y avait un appel à autre chose, donc c'est vrai que l'Inde m'a énormément aidé, j'ai vécu en Inde, je suis allé dans les ashrams, j'ai entendu l'enseignement de grands maîtres, les disciples directs de Ramana Maharshi, les maîtres du Vedanta, les bouddhistes. Au Mont Athos, j'ai vécu avec les moines, j'ai moi-même mené la vie monastique, j'ai appris cette attention, parce que dans la vie monastique, on a apprend à être attentif à l'instant présent, on apprend à faire une chose à la fois. Vous voyez, ça, c'est une chose, par exemple, qu'on sait pas faire, nous. Parce qu'on est toujours en train de faire 5, 6, 7, 8 choses à la fois. À penser à 4 ou 5 choses en même temps, vous voyez. Et ça nous paraît bizarre, simplement, d'être là. Comme dit un proverbe zen, vous voyez, je puise de l'eau, je coupe du bois. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est d'ailleurs de revenir à ce que vous faites, à faire une seule chose, mais à la faire totalement, être totalement engagé dans votre action, dans une pleine conscience totale. Et ça, c'est ce qu'on fait dans la vie monastique. Les moines sont là pour nous rappeler, nous ramener à la simplicité de l'existence quand vous allez dans les champs et quand vous priez. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Alors, je parle pour la tradition orthodoxe. Eh bien, on n'accumule pas des images, des représentations, parce que dans la tradition du Mont Athos, comme, en ce sens, elle rejoint, par exemple, des grandes traditions bouddhistes, je pense au bouddhisme zen, il s'agit de se dépouiller, en fait. Hein. La tradition de ce qu'on appelle la philokalie, la tradition orthodoxe de l'amour, de la beauté, ça consiste à se dépouiller des images, même les bonnes. Les pères de la philokalie disent rejeter les images, même les bonnes idées.
Alors la philokalie, une définition à l'intérieur.
Oui. Alors le mot philokalie en lui-même, ça veut dire amour de la beauté. En fait, c'est un livre qui a été rendu célèbre par les récits d'un pèlerin russe, parce que le pèlerin russe se promène avec ce livre, et dans ce livre, c'est un recueil en fait de textes patristiques qui datent depuis les pères du désert.
Donc les premiers siècles. Oui.
Voilà, mais ça va jusqu'au XVIIIe siècle. Un recueil sur la prière, mais sur une certaine forme de prière qu'on appelle la prière du cœur, qui s'appuie sur la répétition du nom de Jésus, mais qui a pour principe le dépouillement, pour utiliser ce terme, c'est-à-dire le rejet des pensées. Et là, on rejoint tout à fait notre sujet, ce que moi j'utilise le terme de démentalisation, si vous voulez. On rejette les pensées et on passe de l'intellect au cœur, ou comme ils disent eux-mêmes, faire descendre l'intellect dans le cœur. Mais ceci dit, c'est une phrase que moi j'ai entendue dans la bouche d'un maître indien. Hein, il faut faire descendre l'intellect dans le cœur, c'est ce que dit Ramana Maharshi, par exemple. Donc, c'est pas quelque chose qui est fermé à l'intérieur d'une religion, c'est pas quelque chose qui est dogmatique, c'est simplement une expérience humaine et universelle. Savoir revenir dans le cœur, savoir revenir dans l'instant présent, retrouver notre place dans notre corps et dans l'univers, et aussi par rapport aux autres, parce que vous voyez, il y a un aspect dont on n'a pas parlé, mais c'est très, très important, c'est que la relation à l'autre, vous voyez, là aussi dans le monde moderne, on est piégé parce que on ne voit pas l'autre tel qu'il est, mais on projette sans arrêt sur lui des images. Alors ça peut être le désir, mais ça peut être aussi la peur, l'inquiétude, etc. Et ce que je dis, ça n'est pas seulement pour les gens que vous côtoyez dans la rue ou dans le métro. C'est valable pour votre conjoint, pour votre fils, pour votre fille, pour votre père. C'est-à-dire que on s'aperçoit des fois au bout des années, on a vécu avec quelqu'un et on se dit mais finalement je le connais pas du tout. Et on a passer son temps à projeter des images sur l'autre, d'où les problèmes aussi relationnels, problèmes de couple, etc. Parce qu'on n'est pas capable de revenir, on n'est pas capable d'arrêter de projeter sur l'autre nos propres représentations.
Puisque vous parlez du couple, Alain Durel, effectivement, vous consacrez plusieurs réflexions sur la vie amoureuse, parfois avec une vision, j'allais dire, pessimiste de l'amour. Lorsque nous disons que nous aimons une personne, qu'entendons-nous par là ? Ce que nous appelons l'amour n'est très souvent qu'une manière d'utiliser l'autre en vue de nous assurer un certain confort amoureux, psychologique, voire financier.
Mais c'est pas pessimiste, c'est simplement réaliste. C'est-à-dire que moi, je crois en l'amour, si vous voulez. Mais c'est précisément parce que je crois en l'amour que je crois nécessaire de dénoncer ces faux-semblants.
Le mal-aimé, il y a le bien-aimé et le mal-aimé.
Mais oui, c'est-à-dire que malheureusement, dans beaucoup de cas, ce que les gens appellent l'amour n'est qu'en fait un intérêt déguisé, parfois extrêmement subtil. Bon, je cite l'intérêt financier, mais au-delà de ça, la recherche de la sécurité affective
psychologique,
psychologique est un intérêt. Donc, je ne dis pas qu'on puisse se débarrasser de cela. On en est souvent bien incapable. Mais au moins, peut-on être conscient ? Simplement, être conscient, c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas agir d'une manière brutale sur vos propres conditionnements. La première chose, c'est d'être conscient, de voir les choses. Ensuite, ça va très vite si on accepte ce cheminement.
Religion du monde. Geneviève Delru.
Alors Alain Durel, que disent les sages, que disent les philosophes, que disent les religions sur l'amour ? C'est là encore un langage universel.
Oui, bien sûr. Alors évidemment, moi j'essaie d'éviter deux écueils, voyez-vous, et c'est pas du tout facile. D'une part, j'essaie d'éviter le fanatisme, l'intégrisme, mais d'autre part, j'essaie d'éviter le relativisme. Et aujourd'hui, c'est très très difficile parce que on vous renvoie sans arrêt de l'un ou vers l'un ou à l'autre, là, exactement. Et donc arriver à avoir une attitude qui soit équilibrée, c'est pas si facile que ça, voyez-vous.
Ça veut dire que pour vous, tout ne se ressemble pas.
Pour moi, tout n'est pas pareil. Toutes les religions ne se valent pas. Il y a des choix qui sont faits parce que nous faisons tous des choix dans notre vie tous les jours. Et quand on aborde ce sujet, alors il serait interdit de faire des choix.
Mais le choix est un de vos sujets.
Oui, bien sûr. Mais le fait de choisir n'implique pas qu'on veuille imposer son choix. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, voyez. Et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les religions, la question de Dieu. Et la spiritualité. Et je pense que c'est une clarification qu'il faut vraiment sans arrêt rappeler aux gens, parce qu'on voit dans tous les débats actuellement autour de la religion ou des religions, on voit la confusion totale. Il y a des religions, il y a la question de Dieu, il y a des spiritualités. Je prends un exemple. Vous déclarer totalement athée et avoir une spiritualité. Vous pouvez être un homme religieux et n'avoir aucune spiritualité. Vous pouvez croire en Dieu et ne pas avoir une religion. Donc vous avez toutes les combinaisons possibles. Mais vous pouvez aussi bien évidemment avoir une spiritualité, croire en Dieu et avoir une religion. Mais ce sont des choses différentes. La question de la religion, il y a une dimension politique dans le religieux. Depuis que l'homme est homme, c'est-à-dire depuis qu'il est en terre, en fait, c'est semblable, le religieux a structuré les civilisations, les peuples. Ça, c'est clair. Donc, quand on a compris que la religion a cette dimension politique, quand on a compris qu'il y a des religions même athées, je vous prends un exemple très simple, le culte de la personnalité dans l'URSS, c'est une religion. Il y a tous les éléments d'une religion là-dedans. Et pourtant, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de transcendance. Donc, il faut bien comprendre qu'une religion n'est pas nécessairement liée à Dieu. Vous voyez, donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. La question de Dieu, c'est une question à la fois philosophique et religieuse. Les grands philosophes comme Kant, Hegel, Nietzsche ont parlé de cette question, vous voyez. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu.
Comme on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu.
Comme on ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu, parce que Dieu n'est pas un objet qui puisse rentrer dans le cadre d'une procédure scientifique. Vous voyez, donc c'est aussi bête que ça. Donc quand les gens disent moi je ne crois pas en Dieu, en fait si on voulait être absolument rationnel, la seule posture possible, c'est soit le scepticisme, soit l'agnosticisme. Et c'est là où on arrive à la question de la foi, qui est encore autre chose. La foi, c'est une expérience personnelle. De même que vous pouvez rencontrer quelqu'un, être amoureux de quelqu'un, Comment voulez-vous dire à quelqu'un « Non, je ne crois pas en ton amour, je ne crois pas que la personne que tu aimes existe ». Mais c'est une expérience personnelle. Donc, mais cette expérience peut être partagée. Donc on peut avoir la foi avec d'autres et être ensemble à partager une expérience personnelle. Mais vous voyez que ces choses sont différentes et c'est vraiment important de les distinguer si on veut comprendre ce qui se passe actuellement, la confusion dans laquelle on est entre la question philosophique de l'existence de Dieu, le problème des religions et avec leur aspect politique, le problème de la spiritualité qui peut être athée, et le problème de la foi qui est une expérience personnelle.
Oui, c'est ce que l'on retrouve effectivement dans la cinquième partie de votre livre, Alain Durel, comment peut-on croire encore, j'aime beaucoup le « encore » entre parenthèses, en Dieu. Difficile, effectivement, c'est toute la difficulté aujourd'hui.
Pour croire en Dieu, justement, il faut se débarrasser de toutes les représentations. Si on veut encore croire en Dieu, il faut abandonner, et là, moi, je préconise un remède assez violent, et beaucoup de gens religieux me le reprochent, alors que moi-même, je suis croyant. Il faut abandonner l'idolâtrie, car pour moi, dans une grande partie des religions, de l'approche religieuse, c'est une approche idéologique. Les gens disent qu'ils croient en Dieu, mais en réalité, ils croient en une certaine idée. Ils se réfèrent à une idée qui leur donne une stabilité psychologique. Ça leur permet d'avoir une certaine identité. Alors, par exemple, si je suis chrétien, c'est d'abord parce que, oh là là, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman, je ne suis pas bouddhiste, etc. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est ça, croire en Dieu ? Moi, je ne crois pas que la croyance en Dieu, fondamentalement, ce soit renvoie à la récitation d'un catéchisme dogmatique. Il s'agit là d'une expérience, premier point. Et deuxièmement, pour croire encore en Dieu, il faut évidemment se débarrasser de toutes ces représentations. Il faut revenir à la source, il faut revenir à la chose première qui est l'expérience. Donc, on revient toujours à ça. C'est pour ça que l'expérience des mystiques est précieuse. Les mystiques, ce sont pas des fous. Ce sont des gens qui essaient de descendre dans les profondeurs de leur cœur. Ce sont des gens qui, à travers le silence, essaient de découvrir, au fond, leur propre être, leur être profond. Et comme disait ce grand moine bénédictin breton, Henri Le Sceau, qui est parti en Inde, d'une certaine manière, quand on cherche Dieu, on se cherche soi-même, et quand on se cherche soi-même, on cherche Dieu. Mais c'est parce que il faut arrêter de mettre Dieu, si vous voulez, dans une posture d'objectivation. Dieu est certainement le tout autre, moi ça je ne le nie pas, mais ce tout autre, il est au plus profond de nous-mêmes. Et donc il faut le chercher au fond de notre cœur. Il faut arrêter cette posture de dualité, si vous voulez. Il faut aller au-delà de la dualité.
Oui, ça rejoint les contes de sagesse de Patrick Lévy dans la première partie de Religion du Monde. Dieu se trouve en chacun de nous.
Tout à fait, mais pas seulement, mais il se trouve aussi...
Entre autres. Entre autres.
Voilà.
Finalement, Alain Durel, de toutes les traditions religieuses et spirituelles que vous avez fréquentées, j'allais dire, quelle est celle qui vous a le plus inspiré ? On a le sentiment que c'est quand même l'Asie, les traditions orientales, ne serait-ce que votre titre, Être heureux ici et maintenant.
C'est vrai, l'Asie m'a énormément inspiré, mais au bout du compte, c'est quand même dans l'évangile, c'est quand même la figure du Christ qui m'impressionne le plus et qui m'inspire le plus, précisément parce que je vois en elle une sorte de récapitulation de toutes les grandes traditions. Et ça peut paraître étonnant.
Une synthèse.
Oui, mais pour moi, Jésus n'est pas seulement un prophète qui a vécu il y a 2000 ans en Palestine, etc. C'est plus que ça. Et en lui, il y a une sagesse, un logos, comme disent les Grecs anciens. D'ailleurs, Saint Jean disait au commencement était le verbe, le logos, et il est le logos. C'est-à-dire que quand je lis l'évangile, je vois une source d'inspiration pour mon quotidien aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui m'interpelle, une parole vivante qui m'interpelle encore aujourd'hui. Et j'invite vraiment les lecteurs, les gens, y compris ceux qui vraiment ne croient pas du tout en Dieu ou qui sont des membres d'autres confessions, d'aller retourner à la source, c'est-à-dire lire l'évangile lui-même directement. Donc il faut pas, on n'est pas obligé de lire toute la Bible depuis la Genèse. Il faut tout de suite aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile de Saint Matthieu, de Saint Luc, de Saint Jean, qui est cette personne mystérieuse qui vient nous parler, comme ça, sans se poser la question de Dieu, l'écouter, comme Bergson l'avait fait en son temps, ou comme d'autres grands philosophes avaient fait, et l'écouter comme maître de sagesse. Et je pense que là, c'est vraiment intéressant. On peut tirer des choses vraiment intéressantes.
Il y a un maître de sagesse dont vous parlez. C'est tout à fait personnel. On terminera là-dessus. Alain Durel, c'est votre père, qui n'était pas croyant et qui, à la fin de sa vie, finalement, va commencer à goûter à l'ici et maintenant.
Oui, mon père a vécu jusqu'à l'âge de 98 ans et il a découvert un petit peu avant sa mort la beauté de l'instant présent. Il a lâché complètement prise, justement, il a lâché prise au niveau de ses représentations, de ses convictions. Et puis, il est revenu au présent et un petit peu avant de mourir, il a totalement accepté l'idée de la mort. Et paradoxalement, il a été rempli d'une grâce particulière. Il s'est mis à percevoir la beauté des choses, la beauté de la nature, la beauté des visages, parce que justement, il était revenu à l'instant présent.
Lui qui était un homme manifestement hyperactif et qui est mort à 98 ans.
Oui, tout à fait.
Alors, je reprendrai une phrase de votre livre, Alain Durel. Accepter la mort fait partie de la vie. Il faut vivre sa vie en apprenant à mourir.
Oui, et même il faut mourir à chaque instant. C'est encore
mourir
plus,
à soi-même,
plus radical. Il faut mourir à chaque instant, c'est-à-dire il faut se renouveler son esprit. Car nous sommes prisonniers du passé et de l'avenir. En mourant à chaque instant, nous découvrons chaque instant comme une merveille nouvelle et nous nous émerveillons. C'est ça l'esprit d'enfance.
Quel est le maître qui a dit qu'il fallait vivre chaque journée comme si c'était la dernière ?
Oh ben ça, on trouve ça dans
toutes les traditions.
Pas toutes, mais dans pas mal de traditions. Mais notamment chez les Latins et chez les Grecs, bien sûr. Cueille l'aujourd'hui, vous savez, c'est ça. Les Épicuriens eux-mêmes le disaient.
On y revient toujours. Je vous remercie, Alain Durel. Je rappelle le titre de votre livre, Cultiver la joie, être heureux ici et maintenant. Et c'est publié aux éditions Erol. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Cécile Bonissi vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.